Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 9, chapitre 7. Scipion vient trouver Gil Blas à la tour de Ségovie et lui apprend bien des nouvelles. Notre conversation fut interrompue par Tordesilla qui entra dans la chambre et me dit « Seigneur Gil Blas, je viens de parler à un jeune homme qui s'est présenté à la porte de cette prison. Il m'a demandé si vous n'étiez pas prisonnier. Et sur le refus que j'ai fait de contenter sa curiosité, « Noble châtelain, m'a-t-il dit les larmes aux yeux, ne rejetez pas la très humble prière que je vous fais de m'apprendre si le seigneur de Santillane est ici. Je suis son premier domestique, et vous ferez une action charitable si vous me permettez de le voir. Vous passez dans Ségovie pour un gentilhomme plein d'humanité. J'espère que vous ne me refuserez pas la grâce d'entretenir un instant mon cher maître, qui est plus malheureux que coupable. » Enfin, continua Don André, ce garçon m'a témoigné tant d'envie de vous parler que j'ai promis de lui donner ce soir cette satisfaction. J'assurai Tordesilla qu'il ne pouvait me faire un plus grand plaisir que de m'amener ce jeune homme, qui probablement avait à me dire des choses qu'il m'importait fort de savoir. J'attendis avec impatience le moment qu'il devait offrir à mes yeux mon fidèle Scipion, car je ne doutais pas que ce ne fût lui, et je ne me trompais point. On le fit entrer sur le soir dans la tour, et sa joie, que la mienne seule pouvait égaler, éclata par des transports extraordinaires lorsqu'il m'aperçut. De mon côté, dans le ravissement où je me sentis à sa vue, je lui tendis les bras, et il me serra sans façon entre les siens. Le maître et le secrétaire se confondirent dans cette embrassade, tant ils étaient aises de se revoir. Quand nous nous fûmes un peu démêlés tous deux, j'interrogeai Scipion sur l'état où il avait laissé mon hôtel. « Vous n'avez plus d'hôtel, me répondit-il, et pour vous épargner la peine de me faire question sur question, je vais vous dire en deux mots ce qui s'est passé chez vous. Vos effets ont été pillés, tant par des archers que par vos propres domestiques, qui, vous regardant déjà comme un homme entièrement perdu, ont pris à compte sur leur gage tout ce qu'ils ont pu emporter. Par bonheur pour vous, j'ai eu l'adresse de sauver de leurs griffes deux grands sacs de double pistoles que j'ai tirés de votre coffre-fort et qui sont en sûreté. Salereau, que j'en ai fait dépositaire, vous les remettra quand vous serez sorti de cette tour, où je ne vous crois pas pour longtemps pensionnaire de Sa Majesté, puisque vous avez été arrêté sans la participation du duc de Lerme. Je demandai à Scipion comment il savait que son excellence n'avait point part à ma disgrâce. « Oh, vraiment, me répondit-il, c'est une chose dont je suis bien instruit. Un de mes amis qui a la confiance du duc d'Uzède m'a conté toutes les circonstances de votre emprisonnement. Calderon, m'a-t-il dit, ayant découvert par le ministère d'un valet que la signora Sirena recevait sous un autre nom le prince d'Espagne pendant la nuit, et que c'était le comte de Lemos qui conduisait cette intrigue par l'entremise du seigneur de Santillane, résolut de se venger d'eux et de sa maîtresse. Pour y réussir, il va trouver secrètement le duc d'Uzède et lui découvre tout. Ce duc, ravi d'avoir en main une si belle occasion de perdre son ennemi, ne manque pas d'en profiter. Il informe le roi de ce qu'on vient de lui apprendre et lui représente vivement les périls auxquels le prince a été exposé. Cette nouvelle excite la colère de Sa Majesté, qui fait enfermer sur le champ Sirena dans la maison des repentis, exile le comte de Lemos et condamne Gil Blas à une prison perpétuelle. « Voilà, poursuivit Scipion, ce que m'a dit mon ami. Vous voyez par là que votre malheur est l'ouvrage du duc d'Uzède, ou pour mieux dire, de Calderon. » Je jugeai par ce discours que mes affaires pouvaient se rétablir avec le temps, que le duc de Lerme, piqué de l'exil de son neveu, mettrait tout en œuvre pour faire revenir ce seigneur à la cour, et je me flattais que son excellence ne m'oublierait point. La belle chose que l'espérance ! Elle me consola tout à coup de la perte de mes effets volés, et me rendit aussi gai que si j'eusse eu sujet de l'être. Loin de regarder ma prison comme une demeure malheureuse où je finirais peut-être mes jours, elle me parut plutôt un moyen dont la fortune voulait se servir pour m'élever à quelque grand poste. Car voici de quelle manière je raisonnais en moi-même. le premier ministre a pour partisan Don Fernand de Borgia, le père Jérôme de Florence et surtout le frère Louis d'Aliaga, qui lui est redevable de la place qu'il occupe auprès du roi. Avec le secours de ses amis puissants, son excellence coulera tous ses ennemis à fond, ou bien l'État pourra bientôt changer de face. Sa majesté est fort valétudinaire. Dès qu'elle ne sera plus, le prince son fils commencera par rappeler le comte de Lemos, qui me tirera aussitôt d'ici pour me présenter au nouveau monarque, qui m'accablera de bienfaits pour compenser les peines que j'aurai souffertes. Ainsi, déjà plein des plaisirs de l'avenir, je ne sentais presque plus les maux présents. Je crois bien que les deux sacs de doublons que mon secrétaire disait avoir mis en dépôt chez l'orfèvre contribuèrent, autant que l'espérance, au changement subit qui se fit en moi. J'étais trop content du zèle et de l'intégrité de Scipion pour ne le lui pas témoigner. Je lui offris la moitié de l'argent qu'il avait préservé du pillage, ce qu'il refusa. « J'attends de vous, me dit-il, une autre marque de reconnaissance. » Aussi étonné de son discours que de ses refus, je lui demandai ce que je pouvais faire pour lui. « Ne nous séparons point, me répondit-il. « Souffrez que j'attache ma fortune à la vôtre. Je me sens pour vous une amitié que je n'ai jamais eue pour aucun maître. » « Et moi, lui dis-je, mon enfant, je puis t'assurer que tu n'aimes pas un ingrat. Du premier moment que tu vins t'offrir à mon service, tu me plus. Il faut que nous soyons nés l'un et l'autre sous la balance ou sous les gémeaux, qui sont, à ce qu'on dit, les deux constellations qui unissent les hommes. J'accepte volontiers la société que tu me proposes. » Et pour la commencer, je vais prier le seigneur châtelain de t'enfermer avec moi dans cette tour. « Cela me fera plaisir, s'écria-t-il. Vous me prévenez, j'allais vous conjurer de lui demander cette grâce. Votre compagnie m'est plus chère que la liberté. Je sortirai seulement quelquefois pour aller prendre Madrid l'air du bureau et voir s'il ne sera point arrivé à la cour quelque changement qui puisse vous être favorable. » De sorte que vous aurez en moi tout ensemble un confident, un courrier et un espion. » Ces avantages étaient trop considérables pour m'en priver. Je retins auprès de moi un homme si utile, avec la permission de l'obligeant châtelain, qui ne voulut pas me refuser une si douce consolation. Chapitre 8. Du premier voyage que Scipion fit à Madrid, quels en furent le motif et le succès? Gil Blas tombe malade, suite de sa maladie. Si nous disons ordinairement que nous n'avons pas de plus grands ennemis que nos domestiques, nous devons dire aussi que ce sont nos meilleurs amis, quand ils nous sont fidèles et bien affectionnés. Après le zèle que Scipion avait fait paraître, je ne pouvais plus voir en lui qu'un autre moi-même. Ainsi, plus de subordination entre Gil Blas et son secrétaire, plus de façon entre eux. Ils chambrèrent ensemble et n'eurent qu'un lit et qu'une table. Il y avait dans l'entretien de Scipion beaucoup de gaieté. On aurait pu le surnommer à juste titre « le garçon de bonne humeur ». Outre cela, il était homme de tête, et je me trouvais bien de ses conseils. « Mon ami, lui dis-je un jour, il me semble que je ne ferai point mal d'écrire au duc de Lerme. Cela ne saurait produire un mauvais effet. » « Quelle est là-dessus ta pensée ?»« Eh mais, répondit-il, les grands sont si différents d'eux-mêmes d'un moment à un autre que je ne sais pas trop bien comment votre lettre sera reçue. Cependant, je suis d'avis que vous écriviez toujours à bon compte. Quoique le ministre vous aime, il ne faut pas vous reposer sur son amitié du soin de le faire souvenir de vous. Ces sortes de protecteurs oublient aisément les personnes dont ils n'entendent plus parler. » « Quoique cela ne soit que trop vrai, lui répliquai-je, juge mieux de mon patron. Sa bonté m'est connue. Je suis persuadé qu'il compatit à mes peines et qu'elle se présente sans cesse à son esprit. Il attend apparemment, pour me faire sortir de prison, que la colère du roi soit passée. « À la bonne heure, reprit-il, je souhaite que vous jugiez sainement de son excellence. Implorez donc son secours par une lettre fort touchante. » Je la lui porterai. et je vous promets de la lui remettre en main propre. » Je demandai aussitôt du papier et de l'encre. Je composai un morceau d'éloquence que Scipion trouva pathétique et que Torcedilla mit au-dessus des homélies même de l'archevêque de Grenade. Je me flattais que le duc de Lerme serait ému de compassion en lisant le triste détail que je lui faisais d'un état misérable où je n'étais point. Et dans cette confiance, je fis partir mon courrier, qui ne fut pas sitôt à Madrid qu'il alla chez ce ministre. Il rencontra un valet de chambre de mes amis, qui lui ménagea l'occasion de parler au duc. « Monseigneur, » dit Scipion à son Excellence en lui présentant le paquet dont il était chargé, « un de vos plus fidèles serviteurs, qui est couché sur la paille dans un sombre cachot de la tour de Ségovie, vous supplie très humblement de lire cette lettre qu'un guichetier par pitié lui a donné le moyen d'écrire. » Le ministre ouvrit la lettre et la parcourut des yeux. Mais quoiqu'il y vit un tableau capable d'attendrir l'âme la plus dure, bien loin d'en paraître touché, il éleva la voix et dit d'un air furieux au courrier, devant quelques personnes qui pouvaient l'entendre, « Ami, dites à Santillane que je le trouve bien hardi d'oser s'adresser à moi après l'indigne action qu'il a faite et pour laquelle il est si justement châtié. C'est un malheureux qui ne doit plus compter sur mon appui et que j'abandonne au ressentiment du roi. » Scipion, tout effronté qu'il était, fut troublé de ce discours. Il ne laissa pourtant pas, malgré son trouble, de vouloir intercéder pour moi. « Monseigneur, répliqua-t-il, ce pauvre prisonnier mourra de douleur quand il apprendra la réponse de votre Excellence. » Le duc ne repartit à mon intercesseur qu'en le regardant de travers et lui tournant le dos. C'est ainsi que ce ministre me traitait, pour mieux cacher la part qu'il avait eue à l'amoureuse intrigue du prince d'Espagne. Et c'est à quoi doivent s'attendre tous les petits agents dont les grands seigneurs se servent dans leurs secrètes et périlleuses négociations. Lorsque mon secrétaire fut de retour à Ségovie et qu'il m'eut appris le succès de sa commission, me voilà replongé dans l'abîme affreux où je m'étais trouvé le premier jour de ma prison. Je me crus même encore plus malheureux, puisque je n'avais plus la protection du duc de Lerme. Mon courage s'abattit, et quelque chose qu'on me put dire pour le relever, je redevins la proie des plus vifs chagrins qui me causèrent insensiblement une maladie aiguë. Le seigneur châtelain, qui s'intéressait à ma conservation, s'imaginant ne pouvoir mieux faire que d'appeler des médecins à mon secours, m'en amena deux qui avaient tout l'air d'être de grands serviteurs de la déesse Libitine. « Seigneur Gil Blas, » dit-il en me les présentant, « voici deux Hippocrates qui viennent vous voir et qui vous remettront sur pied en peu de temps. » J'étais si prévenu contre tous les docteurs en médecine que j'aurais certainement fort mal reçu cela, pour peu que j'eusse été attaché à la vie. Mais je me sentais alors si las de vivre que je sus bon gré à Tordesilla de me vouloir mettre entre leurs mains. « Seigneur cavalier, » me dit un de ces médecins, « il faut, avant toute chose, que vous ayez de la confiance en nous. »« J'en ai une parfaite, » lui répondis-je. « Avec votre assistance, je suis sûr que je serai dans peu de jours guéri de tous mes maux. » »« Oui, Dieu aidant, » reprit-il, « vous le serez. Nous ferons du moins ce qu'il faudra faire pour cela. » Effectivement, ces messieurs s'y prirent à merveille et me menèrent si bon train que je m'en allais dans l'autre monde à vue d'œil. Déjà, Don André, désespérant de ma guérison, avait fait venir un religieux de Saint-François pour me disposer à bien mourir. Déjà, ce bon père, après s'être acquitté de cet emploi, s'était retiré, et moi-même, croyant que je touchais à ma dernière heure, je fis signe à Scipion de s'approcher de mon lit. « Mon cher ami, » lui dis-je d'une voix presque éteinte, tant les médecins et les saignées m'avaient affaibli, « je te laisse un des sacs qui sont chez Gabriel, et te conjure de porter l'autre dans les Asturies, à mon père et à ma mère, qui doivent en avoir besoin s'ils sont encore vivants. Mais, hélas, je crains bien qu'ils n'aient pu tenir contre mon ingratitude. » Le rapport que Muscada leur aura fait sans doute de ma dureté leur a peut-être causé la mort. Si le ciel les a conservés, malgré l'indifférence dont j'ai payé leur tendresse, tu leur donneras le sac de doublons, en les priant de me pardonner, si je n'en ai pas mieux usé avec eux. Et s'ils ne respirent plus, je te charge d'employer cet argent à faire prier le ciel pour le repos de leurs âmes et de la mienne. » En disant cela, je lui tendis une main qu'il mouilla de ses larmes, sans pouvoir me répondre un mot, tant le pauvre garçon était affligé de ma perte. Ce qui prouve que les pleurs d'un héritier ne sont pas toujours des ris cachés sous un masque. Je m'attendais donc à passer le pas. Néanmoins, mon attente fut trompée. Mes docteurs m'ayant abandonné et laissé le champ libre à la nature, me sauvèrent par ce moyen. La fièvre, qui, selon leur pronostic, devait m'emporter, me quitta, comme pour leur en donner le démenti. Je me rétablis peu à peu, par le plus grand bonheur du monde. Une parfaite tranquillité d'esprit devint le fruit de ma maladie. Je n'eus point alors besoin d'être consolé. Je gardai pour les richesses et pour les honneurs tout le mépris que l'opinion d'une mort prochaine m'en avait fait concevoir. Et, rendu à moi-même, je bénis mon malheur. J'en remerciai le ciel comme d'une grâce particulière qu'il m'avait faite. Et je pris une ferme résolution de ne plus retourner à la cour, quand le duc de Lerme voudrait m'y rappeler. Je me proposai plutôt, si jamais je sortais de prison, d'acheter une chaumière et d'y aller vivre en philosophe. Mon confident applaudit à mon dessein et me dit que, pour en hâter l'exécution, il prétendait retourner à Madrid pour y solliciter mon élargissement. « Il me vient une idée, » ajouta-t-il. « Je connais une personne qui pourra vous servir. C'est la suivante favorite de la nourrice du prince, une fille d'esprit. Je veux la faire agir pour vous auprès de sa maîtresse. Je vais tout tenter pour vous tirer de cette tour, qui n'est toujours qu'une prison, quelque bon traitement qu'on vous y fasse. » « Tu as raison, » lui répondis-je. « Va, mon ami, sans perdre de temps, commencer cette négociation. Plût au ciel que nous fussions déjà dans notre retraite. » Chapitre 9. Scipion retourne à Madrid. Comment et à quelles conditions il fit mettre Gil Blas en liberté? Où ils allèrent tous deux en sortant de la tour de Ségovie? Et quelles conversations ils eurent ensemble? Scipion partit donc encore pour Madrid. Et moi, en attendant son retour, je m'attachai à la lecture. Tordesilla me fournissait plus de livres que je n'en voulais. Il les empruntait d'un vieux commandeur qui ne savait pas lire et qui ne laissait pas d'avoir une belle bibliothèque pour se donner un air de savant. J'aimais surtout les bons ouvrages de morale parce que j'y trouvais à tout moment des passages qui flattaient mon aversion pour la cour et mon goût pour la solitude. Je passai 3 semaines sans entendre parler de mon négociateur, qui revint enfin et me dit d'un air gai « Pour le coup, seigneur de Santillane, je vous apporte de bonnes nouvelles. Madame la nourrice s'intéresse pour vous. Sa suivante, à ma prière, et pour une 100 pistoles que j'ai consignées, a eu la bonté de l'engager à prier le prince d'Espagne de vous faire relâcher. Et ce prince, qui, comme je vous l'ai dit souvent, ne peut rien lui refuser, a promis de demander au roi son père votre élargissement. Je suis venu au plus vite vous en avertir, et je vais retourner sur mes pas pour mettre la dernière main à mon ouvrage. » À ces mots, il me quitta pour reprendre le chemin de la cour. Son 3e voyage ne fut pas long. Au bout de 8 jours, je vis revenir mon homme, qui m'apprit que le prince avait, non sans peine, obtenu du roi ma liberté. Ce qui me fut confirmé dès le même jour par le seigneur Châtelain qui vint me dire en m'embrassant « Mon cher Gil Blas, grâce au ciel vous êtes libre, les portes de cette prison vous sont ouvertes. Mais c'est à 2 conditions qui vous feront peut-être beaucoup de peine et que je me vois à regret obligé de vous faire savoir. Sa Majesté vous défend de vous montrer à la cour et vous ordonne de sortir des 2 Castilles dans 1 mois. Je suis très mortifié qu'on vous interdise la cour. » Et moi, j'en suis ravi, lui répondis-je. Dieu sait ce que j'en pense. Je n'attendais du roi qu'une grâce, il m'en fait 2. Étant donc assuré que je n'étais plus prisonnier, je fis louer deux mules sur lesquelles nous montâmes le lendemain, mon confident et moi, après que j'eus dit adieu à Cogolos et remercié mille fois Tordesilla de tous les témoignages d'amitié que j'avais reçus de lui. Nous prîmes gaiement la route de Madrid pour aller retirer des mains du seigneur Gabriel nos deux sacs, où il y avait dans chacun 500 doublons. Chemin faisant, mon associé me dit « Si nous ne sommes pas assez riches pour acheter une terre magnifique, nous pourrons en avoir du moins une raisonnable. » « Quand nous n'aurions qu'une cabane, lui répondis-je, j'y serais satisfait de mon sort. Quoique je sois à peine au milieu de ma carrière, je me sens revenu du monde, et je ne prétends plus vivre que pour moi. Outre cela, je te dirai que je me suis formé des agréments de la vie champêtre, une idée qui m'enchante et qui m'en fait jouir par avance. Il me semble déjà que je vois les mailles des prairies, que j'entends chanter les rossignols et murmurer les ruisseaux. Tantôt je crois prendre le divertissement de la chasse et tantôt celui de la pêche. Imagine-toi, mon ami, tous les différents plaisirs qui nous attendent dans la solitude, et tu en seras charmé comme moi. À l'égard de notre nourriture, la plus simple sera la meilleure. Un morceau de pain pourra nous contenter quand nous serons pressés de la faim. Nous le mangerons avec un appétit qui nous le fera trouver excellent. La volupté n'est point dans la bonté des aliments exquis, elle est tout en nous. Et cela est si vrai que mes repas les plus délicieux ne sont pas ceux où je vois régner la délicatesse et l'abondance. La frugalité est une source de délices merveilleuses pour la santé. Avec votre permission, seigneur Gil Blas, interrompit mon secrétaire, je ne suis pas tout à fait de votre sentiment sur la prétendue frugalité dont vous voulez me faire fête. Pourquoi nous nourrir comme des Diogènes? Quand nous ne ferons pas si mauvaise chair, nous ne nous porterons pas plus mal. Croyez-moi, puisque nous avons, Dieu merci, de quoi rendre notre retraite agréable, n'en faisons pas le séjour de la faim et de la pauvreté. Sitôt que nous aurons une terre, il faudra la munir de bon vin et de toutes les autres provisions convenables à des gens d'esprit, qui ne quittent pas le commerce des hommes pour renoncer aux commodités de la vie, mais plutôt pour en jouir avec plus de tranquillité. « Ce qu'on a dans sa maison, dit Hésiode, ne nuit pas, au lieu que ce qu'on n'y a point peut nuire. Il vaut mieux, ajoute-t-il, posséder chez soi les choses nécessaires que de souhaiter de les avoir. » « Comment diable, monsieur Scipion, interrompis-je à mon tour, vous connaissez les poètes grecs? Eh, où avez-vous fait connaissance avec Hésiode ?»« Chez un savant, me répondit-il. J'ai servi quelque temps à Salamanque un pédant qui était un grand commentateur. Il vous faisait en moins de rien un gros volume. Il le composait de passages hébreux, grecs et latins qu'il tirait des livres de sa bibliothèque et traduisait en castillan. Comme j'étais son copiste, j'ai retenu je ne sais combien de sentences, aussi remarquables que celles que je viens de citer. « Cela étant, lui répliquai-je, vous avez la mémoire bien ornée. Mais pour revenir à notre projet, dans quel royaume d'Espagne jugez-vous à propos que nous allions établir notre résidence philosophique ?»« J'opine pour l'Aragon, répartit mon confident. « Nous y trouverons des endroits charmants où nous pourrons mener une vie délicieuse. »« Eh bien, lui dis-je, soit, arrêtons-nous à l'Aragon, j'y consens. Puissions-nous y déterrer un séjour qui me fournisse tous les plaisirs dont se repaît mon imagination. » Chapitre 10. Ce qu'ils firent en arrivant à Madrid, quel homme Gil Blas rencontra dans la rue et de quel événement cette rencontre fut suivie. Lorsque nous fûmes arrivés à Madrid, nous allâmes descendre à un petit hôtel garni où Scipion avait logé dans ses voyages, et la première chose que nous fîmes fut de nous rendre chez Salero pour retirer de ses mains nos doublons. Il nous reçut parfaitement bien et me témoigna beaucoup de joie de me voir en liberté. « Je vous proteste, ajouta-t-il, que j'ai été si sensible à votre disgrâce qu'elle m'a dégoûté de l'alliance des gens de cour. » Leurs fortunes sont trop en l'air. j'ai marié ma fille Gabrielle à un riche négociant.
« Vous avez fort bien fait, lui répondis-je.
Outre que cela est plus solide, c'est qu'un bourgeois qui devient beau-père d'un homme de qualité n'est pas toujours content de monsieur son gendre. » Puis, changeant de discours et venant au fait, « Seigneur Gabriel, poursuivis-je, ayez, s'il vous plaît, la bonté de nous remettre les 2000 pistoles que... »«
Votre argent est tout prêt, »
interrompit l'orfèvre, qui, nous ayant fait passer dans son cabinet, nous montra 2 sacs où ces mots étaient écrits sur des étiquettes. « Ces sacs de doublons appartiennent au seigneur Gilles Blas de Santillane. »«
Voilà, me dit-il, le dépôt tel qu'il m'a été confié. »
Je rendis grâce à Salero du plaisir qu'il m'avait fait. Et, fort consolé d'avoir perdu sa fille, nous emportâmes les sacs à notre hôtel où nous nous mîmes à visiter nos 2000 pistoles. Le comte s'y trouva, à 50 prêts, qui avaient été employés aux frais de mon élargissement. Nous ne songeâmes plus qu'à nous mettre en état de partir pour l'Aragon. Mon secrétaire se chargea du soin d'acheter une chaise roulante et 2 mules. De mon côté, je fis provision de linge et d'habits. Pendant que j'allais et venais dans les rues en faisant mes emplettes, je rencontrai le baron de Steinbach, cet officier de la garde allemande chez lequel Don Alphonse avait été élevé. Je saluai ce cavalier allemand qui, m'ayant aussi reconnu, vint à moi et m'embrassa.
« Ma joie est extrême, lui dis-je, de revoir votre seigneurie dans la meilleure santé du monde, et de trouver en même temps l'occasion d'apprendre des nouvelles de mes chers seigneurs Don César et Don Alphonse de Leyva. »
« Je puis vous en dire de certaines, me répondit-il, puisqu'ils sont tous deux actuellement à Madrid, et de plus logés dans ma maison.
Il y a près de 3 mois qu'ils sont venus dans cette ville pour remercier le roi d'un bienfait que Don Alphonse a reçu en reconnaissance des services que ses aïeux ont rendus à l'État. Il a été fait gouverneur de la ville de Valence, sans qu'il ait demandé ce poste, ni prié personne de le solliciter pour lui. »
Rien n'est plus gracieux, et cela fait voir que notre monarque aime à récompenser la valeur.
Quoique je susse mieux que Steinbach ce qu'il en fallait penser, je ne fis pas semblant d'avoir la moindre connaissance de ce qu'il me contait. Je lui témoignai une si vive impatience de saluer mes anciens maîtres que pour la satisfaire, il me mena chez lui sur le champ. J'étais curieux d'éprouver Don Alphonse et de juger, par la réception qu'il me ferait, s'il lui restait encore quelque affection pour moi. Je le trouvai dans une salle où il jouait aux échecs avec la baronne de Steinbach. Il quitta le jeu et se leva dès qu'il m'aperçut. Il s'avança vers moi avec transport et, me pressant la tête entre ses bras, « Santillane !» me dit-il d'un air qui marquait une véritable joie. « Vous m'êtes donc enfin rendu ? J'en suis charmé. Il n'a pas tenu à moi que nous n'ayons toujours été ensemble. Je vous avais prié, s'il vous en souvient, de ne vous pas retirer du château de Leyva. Vous n'avez point eu d'égard à ma prière. Je ne vous en fais pourtant pas un crime. Je vous sais même bon gré du motif de votre retraite. Mais depuis ce temps-là, vous auriez dû me donner de vos nouvelles et m'épargner la peine de vous faire chercher inutilement à Grenade, où Don Fernand, mon beau-frère, m'avait mandé que vous étiez. »
« Après ce petit reproche, continua-t-il, apprenez-moi ce que vous faites à Madrid. Vous y avez apparemment quelque emploi. Soyez persuadé que je prends plus de part que jamais à ce qui vous regarde. »
« Seigneur, lui répondis-je, il n'y a pas 4 mois que j'occupais à la cour un poste assez considérable. J'avais l'honneur d'être secrétaire et confident du duc de Lerme. »
« Serait-il possible ? » s'écria Don Alphonse avec un extrême étonnement.
« Quoi ? Vous auriez été dans la confidence de ce premier ministre ? » ?»«
J'ai gagné sa faveur, » repris-je, « et je l'ai perdue de la manière que je vais vous le dire. » Alors je lui racontai toute cette histoire, et je finis mon récit par la résolution que j'avais prise d'acheter, du peu de bien qui me restait de ma prospérité passée, une chaumière pour y aller mener une vie retirée. Le fils de Don César, après m'avoir écouté avec beaucoup d'attention, me répliqua.
« Mon cher Gil Blas, Vous savez que je vous ai toujours aimé. Vous m'êtes encore plus cher que jamais. Et il faut que je vous en donne des marques, puisque le ciel m'a mis en état d'augmenter vos biens. Vous ne serez plus le jouet de la fortune. Je veux vous affranchir de son pouvoir en vous rendant maître d'un bien qu'elle ne pourra vous ôter. Vous êtes dans le dessein de vivre à la campagne. Je vous donne une petite terre que nous avons auprès de Liria, à 4 lieues de Valence. Vous la connaissez. C'est un présent que nous pouvons vous faire sans nous incommoder. J'ose vous répondre que mon père ne me désavouera point et que cela fera un vrai plaisir à Séraphine. Je me jetai aux genoux de Don Alphonse, qui me releva dans le moment. Je lui baisai la main, et, plus charmé de son bon cœur que de son bienfait, « Seigneur, lui dis-je, vos manières m'enchantent. Le don que vous me faites m'est d'autant plus agréable qu'il précède la reconnaissance d'un service que je vous ai rendu. Et j'aime mieux le devoir à votre générosité qu'à votre reconnaissance. » Mon gouverneur fut un peu surpris de ce discours, et ne manqua pas de me demander ce que c'était que ce prétendu service. Je le lui appris, et lui fis un détail qui redoubla son étonnement. Il était bien éloigné de penser, aussi bien que le baron de Steinbach, que le gouvernement de Valence lui eût été donné par mon crédit. Néanmoins, n'en pouvant plus douter, « Gil Blas, me dit-il, puisque c'est à vous que je dois mon poste, je ne prétends point m'en tenir à la petite terre de Lirias. Je vous offre avec cela 2000 ducats de pension. »
Halte là, seigneur Don Alphonse, interrompis-je en cet endroit. Ne réveillez pas mon avarice. Les biens ne sont propres qu'à corrompre mes mœurs. Je ne l'ai que trop éprouvé. J'accepte volontiers votre terre de Lirias. J'y vivrai commodément avec le bien que j'ai d'ailleurs. Mais cela me suffit, et loin d'en désirer davantage, je consentirai plutôt de perdre tout ce qu'il y a de superflu dans ce que je possède. Les richesses sont un fardeau dans une retraite où l'on ne cherche que la tranquillité. »
Pendant que nous nous entretenions de cette sorte, Don César arriva. Il ne fit guère moins paraître de joie que son fils en me voyant. Et lorsqu'il fut informé de l'obligation que sa famille m'avait, il me pressa d'accepter la pension, ce que je refusai de nouveau. Enfin, le père et le fils me menèrent sur le champ chez un notaire, où ils firent dresser la donation, qu'ils signèrent tous deux avec plus de plaisir qu'ils n'auraient signé un acte à leur profit. Quand le contrat fut expédié, ils me le remirent entre les mains, en me disant que la terre de Lirias n'était plus à eux, et que j'en pourrais aller prendre possession quand il me plairait. Ils s'en retournèrent ensuite chez le baron de Steinbach, et moi, je volai vers notre hôtel, où je ravis d'admiration mon secrétaire, lorsque je lui annonçai que nous avions une terre dans le royaume de Valence, et que je lui contai de quelle manière je venais de faire cette acquisition. « Combien peut valoir ce petit domaine ?» me dit-il. « 500 ducats de rente, lui répondis-je, et je puis t'assurer que c'est une aimable solitude. Je la connais, pour y avoir été plusieurs fois en qualité d'intendant des seigneurs de Leiva. C'est une petite maison sur les bords du Guadalaviar, dans un hameau de 5 ou 6 feux, et dans un pays charmant. » « Ce qui m'en plaît davantage, s'écria Scipion, c'est que nous aurons là de bons gibiers, avec du vin de Benicarlo et d'excellents muscats. Allons, mon patron, hâtons-nous de quitter le monde et de gagner notre ermitage. »
« Je n'ai pas moins envie d'y être que toi, lui répartis-je. Mais il faut auparavant que je fasse un tour aux Asturies. Mon père et ma mère n'y sont pas dans une heureuse situation. Je prétends les aller chercher pour les conduire à Lirias, où ils passeront en repos leurs derniers jours. Le ciel ne m'a peut-être fait trouver cet asile que pour les y recevoir, et il me punirait si j'y manquais. »
Scipion loua fort mon dessein. Il m'excita même à l'exécuter. « Ne perdons pas de temps, me dit-il. Je me suis assuré déjà d'une chaise roulante. Achetons vite des mules et prenons le chemin d'Oviedo. » « Oui, mon ami, lui répondis-je, partons le plus tôt qu'il nous sera possible. Je me fais un devoir indispensable de partager les douceurs de ma retraite avec les auteurs de ma naissance. nous nous verrons bientôt dans notre hameau, et je veux, en y arrivant, écrire sur la porte de ma maison ces deux vers latins en lettres d'or. In veni portum, spes et fortuna valete, sat me lusistis, ludite nunc alios.
Je suis au port, espérance et fortune. Adieu, vous m'avez assez joué. Jouez-en d'autres à présent.